Consuelo, livre 3, chapitre 89. Dans l'incertitude de sa destinée, Consuelo, croyant trouver peut-être une excuse ou un motif à celle de son cœur, se décida enfin à écrire au comte Christian de Rudolstadt, pour lui faire part de sa position vis-à-vis du Porpora, des efforts que ce dernier tentait pour la faire rentrer au théâtre, et de l'espérance qu'elle nourrissait encore de les voir échouer. Elle lui parla sincèrement, lui exposa tout ce qu'elle devait de reconnaissance, de dévouement et de soumission à son vieux maître, et, lui confiant les craintes qu'elle éprouvait à l'égard d'Albert, elle le priait instamment de lui dicter la lettre qu'elle devait écrire à ce dernier pour le maintenir dans un état de confiance et de calme. Elle terminait en disant « J'ai demandé du temps à vos seigneuries pour m'interroger moi-même et me décider. Je suis résolue à tenir ma parole, et je puis jurer devant Dieu que je me sens la force de fermer mon cœur et mon esprit à toute fantaisie contraire, comme à toute nouvelle affection. Et cependant, si je rentre au théâtre, j'adopte un parti qui est, en apparence, une infraction à mes promesses, un renoncement formel à l'espérance de les tenir. Que votre Seigneurie me juge, ou plutôt qu'elle juge le destin qui me commande et le devoir qui me gouverne. Je ne vois aucun moyen de m'y soustraire sans crime. J'attends d'elle un conseil supérieur à celui de ma propre raison. Mais pourra-t-il être contraire à celui de ma conscience ? Lorsque cette lettre fut cachetée et confiée à Joseph pour qu'il la fît partir, Consuelo se sentit plus tranquille, ainsi qu'il arrive dans une situation funeste lorsqu'on a trouvé un moyen de gagner du temps et de reculer le moment de la crise. Elle se disposa donc à rendre avec Porpora une visite, considérée par celui-ci comme importante et décisive, au très renommé et très vanté poète impérial, Monsieur l'abbé Métastase. Ce personnage illustre avait alors environ 50 ans. Il était d'une belle figure, d'un abord gracieux, d'une conversation charmante, et Consuelo eut ressenti pour lui une vive sympathie, si elle n'eût eu, en se rendant à la maison qu'habitaient à différents étages le poète impérial et le perruquier Keller, la conversation suivante avec Porpora. Consuelo, c'est le Porpora qui parle. Tu vas voir un homme de bonne mine, à l'œil vif et noir, au teint vermeil, à la bouche fraîche et souriante, qui veut à toute force être en proie à une maladie lente, cruelle et dangereuse. Un homme qui mange, dort, travaille et engraisse tout comme un autre, et qui prétend être livré à l'insomnie, à la diète, à l'accablement, au marasme. N'est pas la maladresse, lorsqu'il va se plaindre devant toi de ces maux, de lui dire qu'il n'y paraît point, qu'il a fort bon visage ou toute autre platitude semblable. Car il veut qu'on le plaigne, qu'on s'inquiète et qu'on le pleure d'avance. N'est pas le malheur non plus de lui parler de la mort ou d'une personne morte. Il a peur de la mort et ne veut pas mourir. Et cependant, ne commet pas la balourdise de lui dire en le quittant « J'espère que votre précieuse santé sera bientôt meilleure, car il veut qu'on le croie mourant, et s'il pouvait persuader aux autres qu'il est mort, il en serait fort content, à condition toutefois qu'il ne le crût pas lui-même. » « Voilà une sotte manie pour un grand homme, » répondit Consuelo. « Que faudra-t-il donc lui dire, s'il ne faut lui parler ni de guérison ni de mort ?» Il faut lui parler de sa maladie, lui faire 1000 questions, écouter tout le détail de ses souffrances et de ses incommodités, et pour conclure, lui dire qu'il ne se soigne pas assez, qu'il s'oublie lui-même, qu'il ne se ménage point, qu'il travaille trop. De cette façon, nous le disposerons en notre faveur. N'allons-nous pas lui demander pourtant de faire un poème et de vous le faire mettre en musique afin que je puisse le chanter ? Comment pouvons-nous à la fois lui conseiller de ne point écrire et le conjurer d'écrire pour nous au plus vite ? Tout cela s'arrange dans la conversation, il ne s'agit que de placer les choses à propos. » Le maestro voulait que son élève sût se rendre agréable au poète. mais sa causticité naturelle ne lui permettant point de dissimuler les ridicules d'autrui, il commettait lui-même la maladresse de disposer Consuelo à l'examen clairvoyant et à cette sorte de mépris intérieur qui nous rend peu aimables et peu sympathiques à ceux dont le besoin est d'être flattés et admirés sans réserve. Incapable d'adulation et de tromperie, elle souffrit d'entendre le Porpora caresser les misères du poète et le railler cruellement sous les dehors d'une pieuse commisération pour des maux imaginaires. Elle en rougit plusieurs fois et ne put que garder un silence pénible en dépit des signes que lui faisait son maître pour qu'elle le secondât. La réputation de Consuelo commençait à se répandre à Vienne. Elle avait chanté dans plusieurs salons, et son admission au théâtre italien était une hypothèse qui agitait un peu la coterie musicale. Métastase était tout puissant. Que Consuelo gagnât sa sympathie en caressant à propos son amour-propre, et il pouvait confier au Porpora le soin de mettre en musique son Attilio Regolo, qu'il gardait en portefeuille depuis plusieurs années. Il était donc bien nécessaire que l'élève plaidât pour le maître, car le maître ne plaisait nullement au poète impérial. Métastase n'était pas italien pour rien, et les Italiens ne se trompent pas aisément les uns les autres. Il avait trop de finesse et de pénétration pour ne point savoir que Porpora avait une médiocre admiration pour son génie dramatique et qu'il avait censuré plus d'une fois avec rudesse, à tort ou à raison, son caractère craintif, son égoïsme et sa fausse sensibilité. La réserve glaciale de Consuelo, le peu d'intérêt qu'elle semblait prendre à sa maladie, ne lui parurent point ce qu'ils étaient en effet, le malaise d'une respectueuse pitié. Il y vit presque une insulte, et s'il n'eût été esclave de la politesse et du savoir-faire, il eût refusé net de l'entendre chanter. Il y consentit pourtant après quelques minauderies, alléguant l'excitation de ses nerfs et la crainte qu'il avait d'être ému. Il avait entendu Consuelo chanter son oratorio de Judith, mais il fallait qu'il prît une idée d'elle dans le genre scénique, et Porpora insistait beaucoup. Mais que faire et comment chanter? Lui dit tout bas Consuelo, s'il faut craindre de l'émouvoir.
Il faut l'émouvoir, au contraire, répondit de même le maestro.
Il aime beaucoup à être arraché à sa torpeur, parce que quand il est bien agité, il se sent en veine d'écrire. Consuelo chanta un air d'Achille Inchiro, la meilleure œuvre dramatique de Métastase, qui avait été mise en musique par Caldara en 1736 et représentée au fête du mariage de Marie-Thérèse. Métastase fut aussi frappé de sa voix et de sa méthode qu'il l'avait été à la première audition. Mais il était résolu à se renfermer dans le même silence froid et gêné qu'elle avait gardé durant le récit de sa maladie. Il n'y réussit point, car il était artiste en dépit de tout, le digne homme. Et quand un noble interprète fait vibrer dans l'âme du poète les accents de sa muse et le souvenir de ses triomphes, il n'est guère de rancune qui tienne. L'abbé Métastase essaya de se défendre contre ce charme tout-puissant. Il toussa beaucoup, s'agita sur son fauteuil comme un homme distrait par la souffrance, et puis, tout à coup reporté à des souvenirs plus émouvants encore que ceux de sa gloire, il cacha son visage dans son mouchoir et se mit à sangloter. Le Porpora, caché derrière son fauteuil, faisait signe à Consuelo de ne pas le ménager et se frottait les mains d'un air malicieux. Ses larmes, qui coulaient abondantes et sincères, réconcilièrent tout à coup la jeune fille avec le pusillanime abbé. Aussitôt qu'elle eut fini son air, elle s'approcha pour lui baiser la main et pour lui dire cette fois, avec une effusion convaincante, « Hélas, monsieur, que je serais fière et heureuse de vous avoir ému ainsi s'il ne m'en coûtait un remords. La crainte de vous avoir fait du mal empoisonne ma joie. »« Ah, ma chère enfant !» s'écria l'abbé tout à fait gagné. « Vous ne savez pas, vous ne pouvez pas savoir le bien et le mal que vous m'avez fait. Jamais jusqu'ici je n'avais entendu une voix de femme qui me rappela celle de ma chère Marianne. Et vous me l'avez tellement rappelée,
ainsi que sa manière et son expression, que j'ai cru l'entendre elle-même. « Ah, vous avez brisé mon cœur !» Et il recommença à sangloter. « Sa Seigneurie parle d'une personne bien illustre et que tu dois te proposer constamment pour modèle, » dit le Porpora à son élève. « La célèbre et incomparable Mariana Bulgarini. »«
La Romanina ! » s'écria Consuelo.
Je l'ai entendue dans mon enfance à Venise. C'est mon premier grand souvenir et je ne l'oublierai jamais.
Je vois bien que vous l'avez entendue et qu'elle vous a laissé une impression ineffaçable, reprit le métastase.
Ah, jeune fille, imitez-la en tout, dans son jeu comme dans son chant, dans sa bonté comme dans sa grandeur, dans sa puissance comme dans son dévouement. Ah, qu'elle était belle lorsqu'elle représentait la divine Vénus dans le premier opéra que je fis à Rome. C'est à elle que je dus mon premier triomphe.
« Et c'est à votre seigneurie qu'elle a dû ses plus beaux succès, » dit le Porpora.
« Il est vrai que nous avons contribué à la fortune l'un de l'autre, mais rien n'a pu m'acquitter assez envers elle. Jamais tant d'affection, jamais tant d'héroïque persévérance et de soins délicats n'ont habité l'âme d'une mortelle. Ange de ma vie, je te pleurerai éternellement, et je n'aspire qu'à te rejoindre. »
Ici, l'abbé pleura encore. Consuelo était fort ému, Porpora affecta de l'être. Mais, en dépit de lui-même, sa physionomie restait ironique et dédaigneuse. Consuelo le remarqua et se promit de lui reprocher cette méfiance ou cette dureté. Quant à Métastase, il ne vit que l'effet qu'il souhaitait produire, l'attendrissement et l'admiration de la bonne Consuelo. Il était de la véritable espèce des poètes, c'est-à-dire qu'il pleurait plus volontiers devant les autres que dans le secret de sa chambre, et qu'il ne sentait jamais si bien ses affections et ses douleurs que quand il les racontait avec éloquence. Entraîné par l'occasion, il fit à Consuelo le récit de cette partie de sa jeunesse où la Romanina a joué un si grand rôle. Les services que cette généreuse amie lui rendit, le soin filial qu'elle prit de ses vieux parents, le sacrifice maternel qu'elle accomplit en se séparant de lui pour l'envoyer faire fortune à Venise, et quand il en fut à la scène des adieux, quand il eut dit, dans les termes les plus choisis et les plus tendres, de quelle manière sa chère Mariana, le cœur déchiré et la poitrine gonflée de sanglots, l'avait exhorté à l'abandonner pour ne songer qu'à lui-même, il s'écria. « Oh ! Que si elle eût deviné l'avenir qui m'attendait loin d'elle ! Que si elle eût prévu les douleurs, les combats, les terreurs, les angoisses, les revers et jusqu'à l'affreuse maladie qui devait être mon partage ici ! Elle se fût bien épargnée ainsi qu'à moi une si affreuse immolation. Hélas, j'étais loin de croire que nous nous faisions d'éternels adieux et que nous ne devions jamais nous rencontrer sur la terre.
« Comment ? Vous ne vous êtes point revus ?» dit Consuelo, dont les yeux étaient baignés de larmes, car la parole du métastase avait un charme extraordinaire. « Elle n'est point venue à Vienne ?»«
Elle n'y est jamais venue !» répondit l'abbé d'un air accablé.
« Après tant de dévouement, elle n'a pas eu le courage de venir ici vous retrouver ?»
reprit Consuelo, à qui le Porpora faisait en vain des yeux terribles. Le métastase ne répondit rien. Il paraissait absorbé dans ses pensées.
« Mais elle pourrait y venir encore !»
poursuivit Consuelo avec candeur.
« Et elle y viendra certainement. Cet heureux événement vous rendra la santé. »
L'abbé pâlit et fit un geste de terreur. Le maestro toussa de toute sa force, et Consuelo, se rappelant tout à coup que la Romanina était morte depuis plus de 10 ans, s'aperçut de l'énorme maladresse qu'elle commettait, en rappelant l'idée de la mort à cet ami, qui n'aspirait, selon lui, qu'à rejoindre sa bien-aimée dans la tombe. Elle se mordit les lèvres et se retira bientôt avec son maître, lequel n'emportait de cette visite que de vagues promesses et force civilité, comme à l'ordinaire.
« Qu'as-tu fait, tête de linotte ? »
dit-il à Consuelo dès qu'ils furent dehors.
« Une grande sottise, je le vois bien. J'ai oublié que la Romanina ne vivait plus.
Mais croyez-vous bien, maître, que cet homme si aimant et si désolé soit attaché à la vie autant qu'il vous plaît de le dire? Je m'imagine, au contraire, que le regret d'avoir perdu son ami est la seule cause de son mal, et que si quelque terreur superstitieuse lui fait redouter l'heure suprême, il n'en est pas moins horriblement et sincèrement las de vivre. « Enfant, dit le Porpora, on n'est jamais las de vivre quand on est riche, honoré, adulé et bien portant. Et quand on n'a jamais eu d'autres soucis et d'autres passions que celles-là, on ment et on joue la comédie quand on maudit l'existence. » Ne dites pas qu'il n'a jamais eu d'autre passion. Il a aimé la Marianna, et je m'explique pourquoi il a donné ce nom chéri à sa filleule et à sa nièce Marianna Martiez. Consuelo avait failli dire l'élève de Joseph, mais elle s'arrêta brusquement. Achève, dit le Porpora, sa filleule, sa nièce ou sa fille. On le dit, mais que m'importe? Cela prouverait, du moins, que le cher abbé s'est consolé assez vite de l'absence de sa bien-aimée. Mais lorsque tu lui demandais, que Dieu confonde ta stupidité, pourquoi sa chère Marianna n'était pas venue le rejoindre ici, il ne t'a pas répondu, et je vais répondre à sa place. La Romanina lui avait bien, en effet, rendu les plus grands services qu'un homme puisse accepter d'une femme. Elle l'avait bien nourri, logé, habillé, secouru, soutenu en toute occasion. Elle l'avait bien aidé à se faire nommer Poeta Cesareo. Elle s'était bien faite la servante, l'amie, la garde-malade, la bienfaitrice de ses vieux parents. Tout cela est exact. La Marianna avait un grand cœur. Je l'ai beaucoup connue. Mais ce qu'il y a de vrai aussi, c'est qu'elle désirait ardemment se réunir à lui, en se faisant admettre au théâtre de la cour. Et ce qu'il y a de plus vrai encore, c'est que monsieur l'abbé ne s'en souciait pas du tout et ne le permit jamais. Il y avait bien entre eux un commerce de lettres les plus tendres du monde. Je ne doute pas que celles du poète ne fussent des chefs-d'œuvre. On les imprimera. Il le savait bien. Mais tout en disant à sa dilettissima amica qu'il soupirait après le jour de leur réunion et qu'il travaillait sans cesse à faire luire ce jour heureux sur leur existence, le maître renard arrangeait les choses de manière à ce que la malencontreuse cantatrice ne vînt pas tomber au beau milieu de ses illustres et lucratives amours avec une troisième Marianna. Car ce nom-là est une heureuse fatalité dans sa vie. La noble et toute-puissante comtesse d'Altan, favorite du dernier César. On dit qu'il en est résulté un mariage secret. Je le trouve donc fort malvenu à s'arracher les cheveux pour cette pauvre Romanina, qu'il a laissé mourir de chagrin tandis qu'il faisait des madrigaux dans les bras des dames de la cour. Vous commentez et vous jugez tout cela avec un cynisme cruel, mon cher maître, reprit Consuelo attristé. Je parle comme tout le monde, je n'invente rien. C'est la voix publique qui affirme tout cela. Va, tous les comédiens ne sont pas au théâtre. C'est un vieux proverbe. La voix publique n'est pas toujours la plus éclairée, et en tout cas ce n'est jamais la plus charitable. Tiens, maître, je ne puis pas croire qu'un homme de ce renom et de ce talent ne soit rien de plus qu'un comédien en scène. Je l'ai vu pleurer des larmes véritables. Et quand même il aurait à se reprocher d'avoir trop vite oublié sa première Marianna, ses remords ne feraient qu'ajouter à la sincérité de ses regrets d'aujourd'hui. En tout ceci, j'aime mieux le croire faible que lâche. On l'avait fait abbé, on le comblait de bienfaits. La cour était dévote, ses amours avec une comédienne y eussent fait grand scandale. Il n'a pas voulu précisément trahir et tromper la Bulgarine. Il a eu peur, il a hésité, il a gagné du temps, elle est morte. Et il en a remercié la Providence, ajouta l'impitoyable maestro. Et maintenant notre impératrice lui envoie des boîtes et des bagues avec son chiffre en brillant, des plumes de lapis avec des lauriers en brillant, des pots en or massif remplis de tabac d'Espagne, des cachets faits d'un seul gros brillant. Et tout cela brille si fort que les yeux du poète sont toujours baignés de larmes. Et tout cela peut-il le consoler d'avoir brisé le cœur de la Romanina? Il se peut bien que non, mais le désir de ces choses l'a décidé à le faire. Triste vanité. Pour moi, j'ai eu bien de la peine à m'empêcher de rire quand il nous a montré son chandelier d'or à chapiteau d'or, avec la devise ingénieuse que l'impératrice y a fait graver. Perque possa risparmiare i suoi occhi. Voilà en effet qui est bien délicat et qui le faisait s'écrier avec emphase « Affettuosa espressione valutabile più assai dell'oro. » Oh, le pauvre homme! « Oh, l'homme malheureux !» dit Consuelo en soupirant. Et elle rentra fort triste, car elle avait fait involontairement un rapprochement terrible entre la situation de Métastase à l'égard de Marianna et la sienne propre à l'égard d'Albert. « Attendre et mourir !» se disait-elle. « Est-ce donc là le sort de ceux qui aiment passionnément ? Faire attendre et faire mourir ? Est-ce donc là la destinée de ceux qui poursuivent la chimère de la gloire ? Qu'as-tu à rêver ainsi ? Lui dit le maestro. Il me semble que tout va bien, et que malgré tes gaucheries, tu as conquis le Métastase. C'est une maigre conquête que celle d'une âme faible, répondit-elle. Et je ne crois pas que celui qui a manqué de courage pour faire admettre Marianna au théâtre impérial en retrouve un peu pour moi. Le Métastase, en fait d'art, gouverne désormais l'impératrice. Le Métastase, en fait d'art, ne conseillera jamais à l'impératrice que ce qu'elle paraîtra désirer. Et on a beau parler des favoris et des conseillers de Sa Majesté. J'ai vu les traits de Marie-Thérèse, et je vous le dis, mon maître, Marie-Thérèse est trop politique pour avoir des amants, trop absolue pour avoir des amis. « Eh bien, dit le Porpora soucieux, il faut gagner l'impératrice elle-même. Il faut que tu chantes dans ses appartements un matin, et qu'elle te parle, qu'elle cause avec toi. On dit qu'elle n'aime que les personnes vertueuses. Si elle a ce regard d'aigle qu'on lui prête, elle te jugera et te préférera. Je vais tout mettre en œuvre pour qu'elle te voie en tête à tête. » Chapitre 90. Un matin, Joseph, étant occupé à frotter l'antichambre du Porpora, oublia que la cloison était mince et le sommeil du maestro léger. Il se laissa aller, machinalement, à fredonner une phrase musicale qui lui venait à l'esprit et qu'accompagnait rythmiquement le mouvement de sa brosse sur le plancher. Le Porpora, mécontent d'être éveillé avant l'heure, s'agite dans son lit, essaie de se rendormir, et, poursuivi par cette voix belle et fraîche qui chante avec justesse et légèreté une phrase fort gracieuse et fort bien faite, il passe sa robe de chambre et va regarder par le trou de la serrure, moitié charmé de ce qu'il entend, moitié courroucé contre l'artiste qui vient sans façon composer chez lui avant son lever. Mais quelle surprise! C'est Beppo qui chante et qui rêve, et qui poursuit son idée tout en vaquant d'un air préoccupé aux soins du ménage. « Qu'est-ce que tu chantes là ? » dit le maestro d'une voix tonnante en ouvrant la porte brusquement. Joseph, étourdi comme un homme éveillé en sursaut, faillit jeter balai et plumeau et quitter la maison à toutes jambes. Mais s'il n'avait plus depuis longtemps l'espoir de devenir l'élève du Porpora, il s'estimait encore bien heureux d'entendre Consuelo travailler avec le maître et de recevoir les leçons de cette généreuse amie en cachette, quand le maître était absent. Pour rien au monde, il n'eût donc voulu être chassé. Et il se hâta de mentir pour éloigner les soupçons. « Ce que je chante, » dit-il tout décontenancé. « Hélas, maître, je l'ignore. »«
Chante-t-on ce qu'on ignore ? Tu mens. »
« Je vous assure, maître, que je ne sais ce que je chantais. Vous m'avez tant effrayé que je l'ai déjà oublié. Je sais bien que j'ai fait une grande faute de chanter auprès de votre chambre. Je suis distrait, je me croyais bien loin d'ici, tout seul. Je me disais, à présent tu peux chanter, personne n'est là pour te dire. Tais-toi, ignorant, tu chantes faux. Tais-toi, brute, tu n'as pas pu apprendre la musique. »
« Qui t'a dit que tu chantais faux ?
Tout le monde. Et moi, je te dis, s'écria le maestro d'un ton sévère, que tu ne chantes pas faux. Et qui a essayé de t'enseigner la musique?
Mais, par exemple, maître Reuter, dont mon ami Keller fait la barbe, et qui m'a chassé de la leçon, disant que je ne serai jamais qu'un âne.
Joseph connaissait déjà assez les antipathies du maestro pour savoir qu'il faisait peu de cas du Reuter, et même il avait compté sur ce dernier pour lui gagner les bonnes grâces du Porpora, la première fois qu'il essaierait de le desservir auprès de lui. Mais le Reuter, dans les rares visites qu'il avait rendues au maestro, n'avait pas daigné reconnaître son ancien élève dans l'antichambre.
« Maître Reuter est un âne lui-même, » murmura le Porpora entre ses dents.
« Mais il ne s'agit pas de cela, » reprit-il tout haut. « Je veux que tu me dises où tu as pêché cette phrase. » Et il chanta celle que Joseph lui avait fait entendre 10 fois de suite par mégarde.
« Ah, cela !»
dit Hind, qui commençait à mieux augurer des dispositions du maître, mais qui ne s'y fiait pas encore.
« C'est quelque chose que j'ai entendu chanter à la signora. »«
À la Consuelo, à ma fille, je ne connais pas cela. »
« Ah, ça, tu écoutes donc aux portes ?»«
Oh non, monsieur, mais la musique, cela arrive de chambre en chambre jusqu'à la cuisine, et on l'entend malgré soi. »
Je n'aime pas à être servi par des gens qui ont tant de mémoire et qui vont chanter nos idées inédites dans la rue. Vous ferez votre paquet aujourd'hui et vous irez ce soir chercher une autre condition. »
Cet arrêt tomba comme un coup de foudre sur le pauvre Joseph. Et il alla pleurer dans la cuisine où bientôt Consuelo vint écouter le récit de sa mésaventure et le rassurer en lui promettant d'arranger ses affaires.
« Comment, maître ?» dit-elle au Porpora en lui présentant son café. « Tu veux chasser ce pauvre garçon, qui est laborieux et fidèle, parce que pour la première fois de sa vie, il lui est arrivé de chanter juste.
« Je te dis que ce garçon-là est un intrigant et un menteur effronté, qu'il a été envoyé chez moi par quelque ennemi qui veut surprendre le secret de mes compositions et se les approprier avant qu'elles aient vu le jour. » Je gage que le drôle sait déjà par cœur mon nouvel opéra et qu'il copie mes manuscrits quand j'ai le dos tourné. Combien de fois n'ai-je pas été trahi ainsi? Combien de mes idées n'ai-je pas retrouvées dans ces jolis opéras qui faisaient courir tout Venise, tandis qu'on bâillait aux miens et qu'on disait « Ce vieux radoteur de Porpora nous donne pour du neuf des motifs qui traînent dans les carrefours. » Tiens, le sot s'est trahi. Il a chanté ce matin une phrase qui n'est certainement pas d'un autre que de Manejas, et que j'ai fort bien retenue. J'en prendrai note. Et pour me venger, je la mettrai dans mon nouvel opéra, afin de lui rendre le tour qu'il m'a joué si souvent.
Prenez garde, maître. Cette phrase-là n'est peut-être pas inédite. Vous ne savez pas par cœur toutes les productions contemporaines.
Mais je les ai entendues, et je te dis que c'est une phrase trop remarquable pour qu'elle ne m'ait pas encore frappée.
Eh bien, maître, grand merci, je suis fière du compliment, car la phrase est de moi.
Consuelo mentait. La phrase en question était bien éclose le matin même, dans le cerveau d'Ain. Mais elle avait le mot, et déjà elle l'avait apprise par cœur afin de n'être pas prise au dépourvu par les méfiantes investigations du maître. Le Porpora ne manqua pas de la lui demander. Elle la chanta sur le champ, et prétendit que la veille, elle avait essayé de mettre en musique, pour complaire à l'abbé Métastase, les premières strophes de sa jolie pastorale. « Già riede la primavera, col suo florito aspetto. » Già il grato zefiretto scherza fra l'erbe e i fior. Tornan le frondi agli alberi, l'erbette al prato tornano. Sol non ritorna a me la pace del mio cor.
J'avais répété ma première phrase bien des fois, ajouta-t-elle, lorsque j'ai entendu dans l'antichambre maître Beppo, qui, comme un vrai serin des Canaries, s'égosillait à la répéter tout de travers. Cela m'impatientait, je l'ai prié de se taire. Mais au bout d'une heure, il la répétait sur l'escalier, tellement défiguré que cela m'a ôté l'envie de continuer mon air.
Et d'où vient qu'il la chante si bien aujourd'hui? Que s'est-il passé durant son sommeil?
Je vais t'expliquer cela, mon maître.
Je remarquai que ce garçon avait la voix belle, et même juste, mais qu'il chantait faux, faute d'oreilles, de raisonnement et de mémoire. Je me suis amusée à lui faire poser la voix et à chanter la gamme d'après ta méthode pour voir si cela réussirait, même sur une pauvre organisation musicale.
« Cela doit réussir sur toutes les organisations !» s'écria le Porpora.
« Il n'y a point de voix fausse et jamais une oreille exercée... »«
C'est ce que je me disais !» interrompit Consuelo, qui avait hâte d'en venir à ses fins.
« Et c'est ce qui est arrivé. J'ai réussi, avec le système de ta première leçon, à faire comprendre à ce butor ce que dans toute sa vie le Rotter et tous les Allemands ne lui eussent pas fait soupçonner. Après cela, je lui ai chanté ma phrase, et pour la première fois il l'a entendue exactement. Aussitôt il a pu la dire, et il en était si étonné, si émerveillé, qu'il a bien pu n'en pas dormir de la nuit. C'était pour lui comme une révélation.
« Oh, mademoiselle !» me disait-il. « Si j'avais été enseignée ainsi, j'aurais pu apprendre peut-être aussi bien qu'un autre. Mais je vous avoue que je n'ai jamais rien pu comprendre de ce qu'on enseignait à la maîtrise de Saint-Étienne. »
« Il a donc été à la maîtrise, réellement ?»«
Et il en a été chassé honteusement. Tu n'as qu'à parler de lui à Maître Rotter. Il te dira que c'est un mauvais sujet, et un sujet musical impossible à former. »«
Viens ça, ici, toi !» cria le Porpora à Beppo qui pleurait derrière la porte. « Et mets-toi près de moi. Je veux voir si tu as compris la leçon que tu as reçue hier. »
Alors le malicieux maestro commença à enseigner les éléments de la musique à Joseph, de la manière diffuse, pédantesque et embrouillée qu'il attribuait ironiquement aux maîtres allemands. Si Joseph, qui en savait trop pour ne pas comprendre ces éléments, en dépit du soin qu'il prenait pour les lui rendre obscurs, eût laissé voir son intelligence, il était perdu. Mais il était assez fin pour ne pas tomber dans le piège, et il montra résolument une stupidité qui, après une longue épreuve tentée avec obstination par le maître, rassura complètement ce dernier.
« Je vois bien que tu es fort borné, » lui dit-il en se levant et en continuant une feinte dont les deux autres n'étaient pas dupes. « Retourne à ton ballet et tâche de ne plus chanter si tu veux rester à mon service. »
Mais au bout de 2 heures, n'y pouvant plus tenir, et se sentant aiguillonné par l'amour d'un métier qu'il négligeait après l'avoir exercé sans rivaux pendant si longtemps, le Porpora redevint professeur de chant et rappela Joseph pour le remettre sur la sellette. Il lui expliqua les mêmes principes, mais cette fois avec cette clarté, cette logique puissante et profonde qui motive et classe toute chose. En un mot, avec cette incroyable simplicité de moyens dont les hommes de génie s'avisent seuls. Cette fois, Hinde comprit qu'il pouvait avoir l'air de comprendre, et Porpora fut enchanté de son triomphe. Quoique le maître lui enseignât des choses qu'il avait longtemps étudiées et qu'il savait aussi bien que possible, cette leçon eut pour lui un puissant intérêt et une utilité bien certaine. Il y apprit à enseigner. Et comme aux heures où le Porpora ne l'employait pas, il allait encore donner quelques leçons en ville, pour ne pas perdre sa mince clientèle, il se promit de mettre à profit, sans tarder, cette excellente démonstration.
« À la bonne heure, monsieur le professeur !» dit-il au Porpora, en continuant à jouer la niaiserie à la fin de la leçon.
« J'aime mieux cette musique-là que l'autre, et je crois que je pourrais l'apprendre. » Mais quant à celle de ce matin, j'aimerais mieux retourner à la maîtrise que d'essayer d'y mordre.
« Et c'est pourtant la même qu'on t'enseignait à la maîtrise. Est-ce qu'il y a 2 musiques, Benet ? Il n'y a qu'une musique, comme il n'y a qu'un Dieu. »
« Oh, je vous demande bien pardon, monsieur. Il y a la musique de Maître Rotter qui m'ennuie, et la vôtre qui ne m'ennuie pas. »
« C'est bien de l'honneur pour moi, seigneur Beppo. » dit en riant le Porpora, à qui le compliment ne déplut point. À partir de ce jour, Hinde reçut les leçons du Porpora, et bientôt ils arrivèrent aux études du chant italien et aux idées mères de la composition lyrique. C'était ce que le noble jeune homme avait souhaité avec tant d'ardeur et poursuivi avec tant de courage.
il fit de si rapides progrès que le maître était à la fois charmé, surpris et parfois effrayé. Lorsque Consuelo voyait ses anciennes méfiances prêtes à renaître, elle dictait à son jeune ami la conduite qu'il fallait tenir pour les dissiper. Un peu de résistance, une préoccupation feinte, étaient parfois nécessaires pour que le génie et la passion de l'enseignement se réveillassent chez le porpora, ainsi qu'il arrive toujours à l'exercice des hautes facultés, qu'un peu d'obstacles et de luttes rendent plus énergique et plus puissant. Il arriva souvent à Joseph d'être forcé de jouer la langueur et le dépit pour obtenir, en feignant de s'y traîner à regret, ces précieuses leçons qu'il tremblait de voir négligées. Le plaisir de contrarier et le besoin de dompter émoustillaient alors l'âme taquine et guerroyante du vieux professeur. Et jamais Beppo ne reçut de meilleures notions que celles dont la déduction fut arrachée, claire, éloquente et chaude, à l'emportement et à l'ironie du maître. Pendant que l'intérieur du Porpora était le théâtre de ces événements si frivoles en apparence, et dont les résultats pourtant jouèrent un si grand rôle dans l'histoire de l'art, puisque le génie d'un des plus féconds et des plus célèbres compositeurs du siècle dernier y reçut son développement et sa sanction. Des événements, d'une influence plus immédiate sur le roman de la vie de Consuelo, se passaient au dehors. La Corilla, plus active pour discuter ses propres intérêts, plus habile à les faire prévaloir, gagnait chaque jour du terrain, et déjà, parfaitement remise de ses couches, négociait les conditions de son engagement au théâtre de la cour. Virtuose robuste et médiocre musicienne, elle plaisait beaucoup mieux que Consuelo à monsieur le directeur et à sa femme. On sentait bien que la savante Porporina jugerait de haut, ne fût-ce que dans le secret de ses pensées, les opéras de maître Holzbauer et le talent de madame son épouse. On savait bien que les grands artistes, mal secondés et réduits à rendre de pauvres idées, ne conservent pas toujours, accablés qu'ils sont de cette violence faite à leur goût et à leur conscience, cet entrain routinier, cette verve confiante que les médiocrités portent cavalièrement dans la représentation des plus mauvais ouvrages, et à travers la douloureuse cacophonie des œuvres mal étudiées et mal comprises par leurs camarades. Lors même que, grâce à des miracles de volonté et de puissance, ils parviennent à triompher de leur rôle et de leur entourage, cet entourage envieux ne leur en sait point gré. Le compositeur devine leur souffrance intérieure et tremble sans cesse de voir cette inspiration factice se refroidir tout à coup et compromettre son succès. Le public lui-même, étonné et troublé sans savoir pourquoi, devine cette anomalie monstrueuse d'un génie asservi à une idée vulgaire, se débattant dans les liens étroits dont il s'est laissé charger, et c'est presque en soupirant qu'il applaudit à ses vaillants efforts. Monsieur Holzbauer se rendait fort bien compte, quant à lui, du peu de goût que Consuelo avait pour sa musique. Elle avait eu le malheur de le lui montrer un jour que, déguisée en garçon et croyant avoir affaire à une de ces figures qu'on aborde en voyage pour la première et la dernière fois de sa vie, elle avait parlé franchement, sans se douter que bientôt sa destinée d'artiste allait être, pour quelque temps, à la merci de l'inconnu, ami du chanoine. Holzbauer ne l'avait point oublié. Et piqué jusqu'au fond de l'âme, sous un air calme, discret et courtois, il s'était juré de lui fermer le chemin. Mais comme il ne voulait point que le Porpora et son élève, et ce qu'il appelait leur coterie, pussent l'accuser d'une vengeance mesquine et d'une lâche susceptibilité, il n'avait raconté qu'à sa femme sa rencontre avec Consuelo et l'aventure du déjeuner au presbytère. Cette rencontre paraissait donc n'avoir nullement frappé monsieur le directeur. Il semblait avoir oublié les traits du petit Bertoni et ne pas se douter le moins du monde que ce chanteur ambulant et la Porporina fussent un seul et même personnage. Consuelo se perdait en commentaires sur la conduite de Holzbauer à son égard. « J'étais donc bien parfaitement déguisée en voyage, » disait-elle en confidence à Beppo. Et l'arrangement de mes cheveux changeait donc bien ma physionomie pour que cet homme, qui me regardait là-bas avec des yeux si clairs et si perçants, ne me reconnaisse pas du tout ici. Le comte Auditz ne vous a pas reconnu non plus la première fois qu'il vous a revu chez l'ambassadeur, reprenait Joseph. Et peut-être que s'il n'eût pas reçu votre billet, il ne vous eût jamais reconnu. Bien, mais le comte Auditz a une manière vague et nonchalamment superbe de regarder les gens, qui fait qu'il ne voit réellement point. Je suis sûr qu'il n'eût point pressenti mon sexe à Passau, si le baron de Trinque ne l'en eût avisé. Au lieu que le Holzbauer, dès qu'il m'a revu ici, et chaque fois qu'il me rencontre, me regarde avec ces mêmes yeux attentifs et curieux que je lui ai trouvés au presbytère. Pour quel motif me garde-t-il généreusement le secret sur une folle aventure qui pourrait avoir pour ma réputation des suites fâcheuses s'il voulait l'interpréter à mal, et qui pourrait même me brouiller avec mon maître, puisqu'il croit que je suis venu à Vienne sans détresse, sans encombre et sans incident romanesque, tandis que ce même Holzbauer dénigre sous main ma voie et ma méthode, et me dessert le plus possible pour n'être point forcé à m'engager. Il me hait et me repousse. Et, ayant dans la main de plus fortes armes contre moi, il n'en fait point usage. Je m'y perds. » Le mot de cette énigme fut bientôt révélé à Consuelo. Mais avant de lire ce qui lui arriva, il faut qu'on se rappelle qu'une nombreuse et puissante coterie travaillait contre elle, que la Corilla était belle et galante, que le grand ministre Kaunitz la voyait souvent, qu'il aimait à se mêler au tripotage de coulisses, et que Marie-Thérèse, pour se délasser de ses graves travaux, s'amusait à le faire babiller sur ses matières, raillant intérieurement les petitesses de ce grand esprit, et prenant pour son compte un certain plaisir à ses commérages, qui lui montraient en petit, mais avec une franche effronterie, un spectacle analogue à celui que présentaient à cette époque les trois plus importantes cours de l'Europe, gouvernées par des intrigues de femmes. La sienne, celle de la tsarine et celle de Madame de Pompadour. Chapitre 91. On sait que Marie-Thérèse donnait audience une fois par semaine à quiconque voulait lui parler. Coutume paternellement hypocrite que son fils Joseph II observa toujours religieusement et qui est encore en vigueur à la cour d'Autriche. En outre, Marie-Thérèse accordait facilement des audiences particulières à ceux qui voulaient entrer à son service, et jamais souveraine ne fut plus aisée à aborder. Le Porpora avait enfin obtenu cette audience musicale où l'impératrice, voyant de près l'honnête figure de Consuelo, pourrait peut-être prendre quelque sympathie marquée pour elle. Du moins, le maestro l'espérait. Connaissant les exigences de sa majesté à l'endroit des bonnes mœurs et de la tenue décente, il se disait qu'elle serait frappée, à coup sûr, de l'air de candeur et de modestie qui brillait dans toute la personne de son élève. On les introduisit dans un des petits salons du palais où l'on avait transporté un clavecin et où l'impératrice arriva au bout d'une demi-heure. Elle venait de recevoir des personnages d'importance et elle était encore en costume de représentation, telle qu'on la voit sur les sequins d'or frappés à son effigie, en robe de brocart, manteau impérial, la couronne en tête et un petit sabre hongrois au côté. Elle était vraiment belle ainsi, non imposante et d'une noblesse idéale, comme ses courtisans affectaient de la dépeindre, mais fraîche, enjouée, la physionomie ouverte et heureuse, l'air confiant et entreprenant. C'était bien le roi Marie-Thérèse que les magnats de Hongrie avaient proclamé, le sabre au poing, dans un jour d'enthousiasme. Mais c'était, au premier abord, un bon roi plutôt qu'un grand roi. Elle n'avait point de coquetterie, et la familiarité de ses manières annonçait une âme calme et dépourvue d'astuces féminines. Quand on la regardait longtemps, et surtout lorsqu'elle vous interrogeait avec insistance,
On voyait de la finesse et même de la ruse froide dans cette physionomie si riante et si affable. Mais c'était de la ruse masculine, de la ruse impériale, si l'on veut, jamais de la galanterie. « Vous me ferez entendre votre élève tout à l'heure, » dit-elle au Porpora. « Je sais déjà qu'elle a un grand savoir, une voix magnifique, et je n'ai pas oublié le plaisir qu'elle m'a fait dans l'oratorio de Betulia Liberata. Mais je veux d'abord causer un peu avec elle en particulier. J'ai plusieurs questions à lui faire. » Et comme je compte sur sa franchise, j'ai bon espoir de lui pouvoir accorder la protection qu'elle me demande. » Le Porpora se hâta de sortir, lisant dans les yeux de Sa Majesté qu'elle désirait être tout à fait seule avec Consuelo. Il se retira dans une galerie voisine où il eut grand froid, car la cour, ruinée par les dépenses de la guerre, était gouvernée avec beaucoup d'économie. Et le caractère de Marie-Thérèse secondait assez à cet égard les nécessités de sa position. En se voyant tête à tête avec la fille et la mère des Césars, l'héroïne de la Germanie et la plus grande femme qu'il y eut alors en Europe, Consuelo ne se sentit pourtant ni troublée ni intimidée. Soit que son insouciance d'artiste la rendit indifférente à cette pompe armée qui brillait autour de Marie-Thérèse et jusque sur son costume, soit que son âme noble et franche se sentit à la hauteur de toutes les grandeurs morales. Elle attendit dans une attitude calme et dans une grande sérénité d'esprit qu'il plût à Sa Majesté de l'interroger. L'impératrice s'assit sur un sofa, tirailla un peu son baudrier couvert de pierreries qui gênait et blessait son épaule ronde et blanche, et commença ainsi. « Je te répète, mon enfant, que je fais grand cas de ton talent, et que je ne mets pas en doute tes bonnes études et l'intelligence que tu as de ton métier. Mais on doit t'avoir dit qu'à mes yeux, le talent n'est rien sans la bonne conduite, et que je fais plus de cas d'un cœur pur et pieux que d'un grand génie. » Consuelo, debout, écouta respectueusement cet exorde, mais il ne lui sembla pas que ce fût une provocation à faire l'éloge d'elle-même. Et comme elle éprouvait d'ailleurs une mortelle répugnance à se vanter des vertus qu'elle pratiquait si simplement, elle attendit en silence que l'impératrice l'interrogeât d'une manière plus directe sur ses principes et ses résolutions. C'était pourtant bien le moment d'adresser à la souveraine un madrigal bien tourné sur sa piété angélique, sur ses vertus sublimes et sur l'impossibilité de se mal conduire quand on avait son exemple sous les yeux. La pauvre Consuelo n'eut pas seulement l'idée de mettre l'occasion à profit. Les âmes délicates craindraient d'insulter à un grand caractère en lui donnant des louanges banales. Mais les souverains, s'ils ne sont pas dupes de cet encens grossier, ont du moins une telle habitude de le respirer qu'ils l'exigent comme un simple acte de soumission et d'étiquette. Marie-Thérèse fut étonnée du silence de la jeune fille, et prenant un ton moins doux et un air moins encourageant, elle continua. « Or, je sais, ma chère petite, que vous avez une conduite assez légère, et que, n'étant pas mariée, vous vivez ici dans une étrange intimité avec un jeune homme de votre profession dont je ne me rappelle pas le nom en ce moment. Je ne puis répondre à votre majesté impériale qu'une seule chose, dit enfin Consuelo, animé par l'injustice de cette brusque accusation. C'est que je n'ai jamais commis une seule faute dont le souvenir m'empêche de soutenir le regard de votre majesté avec un doux orgueil et une joie reconnaissante. Marie-Thérèse fut frappée de l'expression fière et forte que la physionomie de Consuelo prit en cet instant. 5 ou 6 ans plus tôt, elle l'eût sans doute remarquée avec plaisir et sympathie. Mais déjà Marie-Thérèse était reine jusqu'au fond de l'âme, et l'exercice de sa force lui avait donné cette sorte d'enivrement réfléchi qui fait qu'on veut tout plier et tout briser devant soi. Marie-Thérèse voulait être le seul être fort qui respira dans ses états, et comme souveraine, et comme femme. Elle fut donc choquée du sourire fier et du regard franc de cet enfant qui n'était qu'un vermisseau devant elle, et dont elle croyait pouvoir s'amuser un instant comme d'un esclave qu'on fait causer par curiosité. Je vous ai demandé, mademoiselle, le nom de ce jeune homme qui demeure avec vous chez maître Porpora, reprit-elle d'un ton glacial. Et vous ne me l'avez point dit.
Son nom est Joseph Hind, répondit Consuelo sans s'émouvoir.
Eh bien, il est entré par inclination pour vous au service du maître Porpora en qualité de valet de chambre. Et maître Porpora ignore les vrais motifs de la conduite de ce jeune homme, tandis que vous les encouragez, vous qui ne les ignorez point.
On m'a calomnié auprès de votre majesté. Ce jeune homme n'a jamais eu d'inclination pour moi.
Consuelo croyait dire la vérité.
Et je sais même que ses affections sont ailleurs. S'il y a eu une petite tromperie envers mon respectable maître, les motifs en sont innocents et peut-être estimables. L'amour de l'art a pu seul décider Joseph Hind à se mettre au service du Porpora. Et puisque votre majesté daigne peser la conduite de ses moindres sujets, comme je crois impossible que rien n'échappe à son équité clairvoyante, je suis certaine qu'elle rendra justice à ma sincérité dès qu'elle voudra descendre jusqu'à examiner ma cause.
Marie-Thérèse était trop pénétrante pour ne pas reconnaître l'accent de la vérité. Elle n'avait pas encore perdu tout l'héroïsme de sa jeunesse, bien qu'elle fût en train de descendre cette pente fatale du pouvoir absolu qui éteint peu à peu la foi dans les âmes les plus généreuses.
« Jeune fille, je vous crois vraie et je vous trouve l'air chaste, mais je démêle en vous un grand orgueil et une méfiance de ma bonté maternelle qui me fait craindre de ne pouvoir rien pour vous. »
Si c'est à la bonté maternelle de Marie-Thérèse que j'ai affaire, répondit Consuelo, attendrie par cette expression dont la pauvrette, hélas, ne connaissait pas l'extension banale.
Me voici prête à m'agenouiller devant elle et à l'implorer. Mais si c'est...
Achevez, mon enfant, dit Marie-Thérèse, qui, sans trop s'en rendre compte, eût voulu mettre à ses genoux cette personne étrange.
Dites toute votre pensée.
Si c'est à la justice impériale de votre majesté, n'ayant rien à confesser, comme une haleine pure ne souille pas l'air que les dieux mêmes respirent, je me sens tout l'orgueil nécessaire pour être digne de sa protection.
Porporina, dit l'impératrice, vous êtes une fille d'esprit, et votre originalité, dont une autre s'offenserait, ne vous messiez pas auprès de moi. Je vous l'ai dit, je vous crois franche. Et cependant, je sais que vous avez quelque chose à me confesser. Pourquoi hésitez-vous à le faire? Vous aimez Joseph Hind. Votre liaison est pure, je n'en veux pas douter. Mais vous l'aimez, puisque pour le seul charme de le voir plus souvent, supposons même que ce soit pour la seule sollicitude de ses progrès en musique avec le Porpora, vous exposez intrépidement votre réputation, qui est la chose la plus sacrée, la plus importante de notre vie de femme. Mais vous craignez peut-être que votre maître, votre père adoptif, ne consente pas à votre union avec un artiste pauvre et obscur. Peut-être aussi, car je veux croire à toutes vos assertions. Le jeune homme aime-t-il ailleurs? Et vous, fière comme je vois bien que vous l'êtes, vous cachez votre inclination, et vous sacrifiez généreusement votre bonne renommée sans retirer de ce dévouement aucune satisfaction personnelle. Eh bien, ma chère petite, à votre place, si j'avais l'occasion qui se présente en cet instant, et qui ne se présentera peut-être plus, j'ouvrirai mon cœur à ma souveraine, et je lui dirai « Vous qui pouvez tout, et qui voulez le bien, je vous confie ma destinée. Levez tous les obstacles. D'un mot, vous pouvez changer les dispositions de mon tuteur et celles de mon amant. Vous pouvez me rendre heureuse, me réhabiliter dans l'estime publique et me mettre dans une position assez honorable pour que j'ose prétendre à entrer au service de la cour. Voilà la confiance que vous deviez avoir dans l'intérêt maternel de Marie-Thérèse, et je suis fâchée que vous ne l'ayez pas compris. »
Je comprends fort bien, dit Consuelo en elle-même, que par un caprice bizarre, par un despotisme d'enfant gâté, tu veux, grande reine, que la Zingarella embrasse tes genoux, parce qu'il te semble que ses genoux sont raides devant toi, et que c'est pour toi un phénomène inobservé. Eh bien, tu n'auras pas cet amusement-là, à moins de me bien prouver que tu mérites mon hommage.
Elle avait fait rapidement ses réflexions, et d'autres encore, pendant que Marie-Thérèse la sermonnait. Elle s'était dit qu'elle jouait en cet instant la fortune du Porpora sur un coup de dé, sur une fantaisie de l'impératrice, et que l'avenir de son maître valait bien la peine qu'elle s'humiliât un peu. Mais elle ne voulait pas s'humilier en vain. Elle ne voulait pas jouer la comédie avec une tête couronnée qui en savait certainement autant qu'elle sur ce chapitre-là. Elle attendait que Marie-Thérèse se fît véritablement grande à ses yeux afin qu'elle-même pût se montrer sincère en se prosternant. Quand l'impératrice eut fini son homélie, Consuelo répondit « Je répondrai à tout ce que votre majesté a daigné me dire si elle veut bien me l'ordonner. » « Oui, parlez, parlez !» dit l'impératrice, dépitée de cette contenance impassible. « Je dirai donc à votre majesté que, pour la première fois de ma vie, j'apprends, de sa bouche impériale, que ma réputation est compromise par la présence de Joseph Hinde dans la maison de mon maître. Je me croyais trop peu de choses pour attirer sur moi les arrêts de l'opinion publique. Et si l'on m'eût dit, lorsque je me rendais au palais impérial, que l'impératrice elle-même jugeait et blâmait ma situation, j'aurais cru faire un rêve. » Marie-Thérèse l'interrompit. Elle crut trouver de l'ironie dans cette réflexion de Consuelo. « Il ne faut pas vous étonner, dit-elle d'un ton un peu emphatique, que je m'occupe des détails les plus minutieux de la vie des êtres dont j'ai la responsabilité devant Dieu. On peut s'étonner de ce qu'on admire, répondit adroitement Consuelo. Et si les grandes choses sont les plus simples, elles sont du moins assez rares pour nous surprendre au premier abord. Il faut que vous compreniez, en outre, reprit l'impératrice, le soin particulier qui me préoccupe à votre égard, et à l'égard de tous les artistes dont j'aime à orner ma cour. Le théâtre est, en tout pays, une école de scandale, un abîme de turpitude. J'ai la prétention, louable certainement, sinon réalisable, de réhabiliter devant les hommes et de purifier devant Dieu la classe des comédiens, objet des mépris aveugles et même des proscriptions religieuses de plusieurs nations. Tandis qu'en France l'Église leur ferme ses portes, je veux, moi, que l'Église leur ouvre son sein. Je n'ai jamais admis, soit à mon théâtre italien, soit pour ma comédie française, soit encore à mon théâtre national, que des gens d'une moralité éprouvée, ou bien des personnes résolues de bonne foi à réformer leur conduite. Vous devez savoir que je marie mes comédiens et que je tiens même leurs enfants sur les fonts de baptême, résolus à encourager par toutes les faveurs possibles la légitimité des naissances et la fidélité des époux. Si nous avions su cela, pensa Consuelo, nous aurions prié Sa Majesté d'être la marraine d'Angèle à ma place. « Votre Majesté sème pour recueillir, » reprit-elle tout haut, « et si j'avais une faute sur la conscience, je serais bien heureuse de trouver en elle un confesseur aussi miséricordieux que Dieu même. Mais... » « Continuez ce que vous vouliez dire tout à l'heure, » répondit Marie-Thérèse avec hauteur. « Je disais, » repartit Consuelo, qu'ignorant le blâme déversé sur moi à propos du séjour de Joseph Hinde dans la maison que j'habite, je n'avais pas fait un grand effort de dévouement envers lui en m'y exposant. « J'entends, » dit l'impératrice, « vous niez tout. »« Comment pourrais-je confesser le mensonge ? » reprit Consuelo. « Je n'ai ni inclination pour l'élève de mon maître, ni désir aucun de l'épouser. Et s'il en était autrement, pensa-t-elle, je ne voudrais pas accepter son cœur par décret impérial. Ainsi, vous voulez rester fille, dit l'impératrice en se levant. Eh bien, je vous déclare que c'est une position qui n'offre pas à ma sécurité sur le chapitre de l'honneur toutes les garanties désirables. Il est inconvenant, d'ailleurs, qu'une jeune personne paraisse dans certains rôles et représente certaines passions quand elle n'a pas la sanction du mariage et la protection d'un époux. Il ne tenait qu'à vous de l'emporter dans mon esprit sur votre concurrente, Madame Corilla, dont on m'avait dit pourtant beaucoup de bien, mais qui ne prononce pas l'italien à beaucoup près aussi bien que vous.
Mais Madame Corilla est mariée et mère de famille, ce qui la place dans des conditions plus recommandables à mes yeux que celles où vous vous obstinez à rester.
Mariée ? Ne put s'empêcher de murmurer entre ses dents la pauvre Consuelo, bouleversée de voir quelle personne vertueuse, la très vertueuse et très clairvoyante impératrice lui préférait.
« Oui, mariée, » répondit l'impératrice d'un ton absolu et courroucé, déjà, de ce doute émis sur le compte de sa protégée. Elle a donné le jour dernièrement à un enfant, qu'elle a mis entre les mains d'un respectable et laborieux ecclésiastique, monsieur le chanoine, afin qu'il lui donnât une éducation chrétienne. Et sans aucun doute, ce digne personnage ne se serait point chargé d'un tel fardeau s'il n'eût reconnu que la mère avait droit à toute son estime.
« Je n'en fais aucun doute non plus, » répondit la jeune fille, consolée, au milieu de son indignation, de voir que le chanoine était approuvé, au lieu d'être censuré pour cette adoption qu'elle lui avait elle-même arrachée.
« C'est ainsi qu'on écrit l'histoire, et c'est ainsi qu'on éclaire les rois. » se dit-elle lorsque l'impératrice fut sortie de l'appartement d'un grand air et en lui faisant pour salut un léger signe de tête.
« Allons, au fond des plus mauvaises choses, il se fait toujours quelque bien, et les erreurs des hommes ont parfois un bon résultat. On n'enlèvera pas au chanoine son bon prieuré. On n'enlèvera pas à Angèle son bon chanoine. La Corilla se convertira si l'impératrice s'en mêle. Et moi, je ne me suis pas mise à genoux devant une femme qui ne vaut pas mieux que moi.
« Eh bien ?» s'écria d'une voix étouffée le Porpora, qui l'attendait dans la galerie en grelottant et en se tordant les mains d'inquiétude et d'espérance.
« J'espère que nous l'emportons. »«
Nous échouons, au contraire, mon bon maître. »«
Avec quel calme tu dis cela ? Que le diable t'emporte !»
« Il ne faut pas dire cela ici, maître. Le diable est fort mal vu à la cour. Quand nous aurons franchi la dernière porte du palais, je vous dirai tout. »«
Eh bien, qu'est-ce ? » reprit le Porpora avec impatience lorsqu'ils furent sur le rempart.
« Rappelez-vous, maître, » répondit Consuelo, « ce que nous avons dit du grand ministre Kaunitz en sortant de chez la margrave.
Nous avons dit que c'était une vieille commère. Eh bien, il nous a desservi ? » ?»«
Sans aucun doute. Et je vous dis maintenant, Sa Majesté l'Impératrice, reine de Hongrie, est aussi une commère. »